Bonjour tout le monde, bon mardi. Dernier bilan d'urgence Québec. On en est à 3152 résidences inondées, 1418 personnes évacuées, sans parler de 1860 résidences isolées. On va faire un petit peu le tour du Québec, le tour donc des principales zones touchées. On va commencer par la grande région de Chaudière-Appalaches. On va aller rejoindre notre journaliste Jonathan Bernard qui est à Sainte-Marie-de-Beauce. On vous écoute, Jonathan.
Salut Bernard. Ben oui, je vous dirais que c'est la Beauce qui a été la plus touchée jusqu'à présent parce que sur les quelques 3000 maisons inondées, il y en a tout près de 2000 dans la région ici. Et à Sainte-Marie, c'est à peu près le tiers des 3000. Donc, c'est vous donner une idée de l'ampleur de la crue des eaux que l'on a connue durant le week-end pascal. Aujourd'hui, je vous dirais que le niveau, là, il est en deçà de à peu près 1,7 mètres par rapport au seuil historique qui a été enregistré, le niveau historique, en fait, qui a été enregistré samedi dernier. Donc là, les gens ont commencé à réintégrer. Les pompes, vous l'entendez, là, juste au côté de moi. Je suis dans le centre-ville. Les pompes fonctionnent à plein régime pour vider les sous-sols des commerces, mais également des résidences. Les gens tentent tant bien que mal de faire sécher des documents qu'ils avaient à l'intérieur de leur résidence. Et là, je vous dirais, on est au moment de constater les dégâts et plusieurs se rendent compte qu'il va y avoir des pertes majeures, même certaines résidences qui pourraient être déclarées pertes totales. J'ai parlé un peu plus tôt avec le maire Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, je vous invite à écouter.
Oh, c'est historique. Écoute, on a dépassé la cote 100 ans. Dans les 50 dernières années, c'est la plus grosse inondation que la ville de Sainte-Marie a connue. On est monté à 147 mètres, 767, puis le plus haut qu'on avait eu, c'est 147 mètres, 600. Fait que s'il y a une grosse différence, c'est la différence entre les... C'est là qu'on va voir les résidences, là. Des fois, il y en a qui tiennent ça à niveau, à maximum sur le plancher. Cette année, malheureusement, j'ai peur que plusieurs résidents aient été affectés.
Et là, bon, cet après-midi, sachez première des choses que le niveau continue à baisser d'à peu près 5 cm par heure, sauf que ce n'est pas suffisamment rapide au dire des autorités, parce qu'on nous attend, on nous prévoit plutôt un autre coup d'eau dans les prochaines heures, les prochains jours. Et un peu plus tard cet après-midi, soit à 14h15, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, viendra ici à Sainte-Marie pour constater les dégâts, rencontrer les sinistrés et fera le point.
Par ailleurs, Jonathan, on me dit là que les militaires sont arrivés ce matin en Beauce, oui, à 7 heures. Une centaine de militaires, exact?
Ils sont 75 exactement du côté de Sainte-Marie. Il y en a d'autres qui sont déployés ailleurs, mais je vous dirais que majoritairement, ils sont ici. On les a vus faire leur ronde. Ils appuient les policiers de la Sûreté du Québec pour s'assurer de la sécurité, qu'il n'y a pas des gens qui profitent justement de l'occasion pour aller piller des maisons ou des commerces.
Jonathan Bernard, donc, à Sainte-Marie-de-Beauce. Merci.
Au revoir.
On s'en va maintenant rejoindre Annie Guillemette qui est à Rigaud. Bonjour Annie.
Bonjour Bernard.
Je vous écoute, on vous écoute.
Ben, si en Beauce, on regarde le niveau baisser un peu, ici, on attend qu'il monte parce que vraiment là, la fenêtre critique en raison des précipitations qui s'en viennent, c'est vraiment les 36 prochaines heures. Déjà, il y a quand même 200 résidences qui sont inondées. Il y en a près de 60 qui sont carrément inaccessibles. On parle de résidences qui sont devenues des îles. Et parmi ces citoyens-là, eh bien, Bernard, il y a toujours des gens qui veulent rester dans leur maison. Des fois, il n'y a plus d'électricité. Bien sûr, ils ont des problèmes aussi avec les toilettes, puisque les fosses septiques ne fonctionnent plus. L'eau n'est plus bonne à boire non plus, mais quand même, on veut rester dans sa résidence. J'ai parlé ce matin à un irréductible, on peut l'écouter.
Ben, puis au moment, tout va bien. On a notre canot, puis on rame, puis on se rend en voiture comme ça.
Donc, si vous avez des courses à faire, là, vous prenez la chaloupe, vous en allez?
Pas l'heure, les voitures sont stationnées là-bas, puis on prend la chaloupe, on y va.
Bon, il garde le moral, celui-là, en tout cas, Annie.
Oui, bien, il y en a beaucoup qui gardent le moral, malgré ce qui s'en vient, là, parce que justement, l'aide est arrivée beaucoup plus vite qu'en 2017. Ici, les gens avaient vraiment été pris de court. On était habitués de voir le terrain inondé un peu, mais pas plus que ça. Donc là, en 2017, ça a été la catastrophe. Cette année, les autorités vraiment, on peut dire, se sont levées de bonne heure pour appeler l'armée, pour être prêts aussi depuis le mois de mars qu'il y a des rencontres de citoyens à la ville de Rigaud. Aussi, c'est ouvert pour les gens de Pointe-Fortune parce qu'eux aussi sont touchés. Donc, vraiment, l'opération Sac de sable est à peu près terminée. Là, on n'en fabrique plus, mais les gens continuent à s'en servir à leur résidence. J'ai vu des gens ce matin qui étaient vraiment inondés et que le muret de sacs de sable restait, fonctionnait jusqu'à maintenant. Donc, on se croise les doigts pour la suite. Et surtout, le mot d'ordre, c'est vraiment patience, parce que les autorités l'ont dit en point de presse ce matin, la rivière prendra quelques semaines à retrouver son lit. Donc, vraiment, ce sera long. Et ça donne quand même des images assez particulières à voir. Bon, bien sûr, il y a des véhicules de l'armée qui circulent, ce qui est assez rare. J'ai vu dans la dernière heure des enfants d'une garderie qui se promenaient, prenaient leur marche avec leur petit serpentin. Et ils faisaient effectivement des babayes aux militaires qui étaient dans leur mini-tank et qui se promenaient. Donc, c'est un peu... on est sur un pied de guerre ici, mais vraiment, le moral est bon. Il faudra s'assurer maintenant que ça tienne. Et c'est pour ça qu'il y a le Centre des sinistrés qui est ouvert à tous les jours. Et on accueille les gens pour leur donner du soutien. Les gens, il y a des services aussi psychosociaux là, qui ont été offerts aux sinistrés, surtout ceux qui ont été touchés en 2017 et qui voient là, revenir la même situation.
Le cauchemar qui revient. Merci beaucoup, Annie Guillemette.
Au revoir.
On s'en va maintenant à Laval. Allez rejoindre Stéphane Boucher. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bernard.
Comment ça se passe de votre côté?
Ben, c'est assez stable par rapport à hier, mais un peu comme Annie, hein, ici, on écoute les postes d'information et on sait qu'il va y avoir la pluie dans les prochaines heures. Il y a également le mercure qui grimpe. Ça signifie que l'eau de ruissellement va gonfler les rivières. Moi, je suis, Bernard, à Laval-Ouest. C'est le secteur à Laval le plus touché. Bon, il y a également des débordements à Saint-Dorothée, Sainte-Rose, mais c'est surtout à Laval-Ouest. Il y a actuellement à Laval, sur le territoire, 170 résidences isolées. Il y avait 150 hier, donc c'est détérioré un peu. 42 résidences inondées, il y en avait 12 hier. Il faut dire que ces résidences qui sont inondées à divers degrés. J'ai parlé à quelques résidents, je suis ici depuis 6 heures ce matin, les résidents trouvent que l'eau a baissé. Par contre, d'autres arrivent après puis disent non, regarde la ligne sur tel soubassement, ça a monté. Alors, la vérité, c'est assez stable, mais que la tendance demeure toujours à la hausse.
D'accord.
Alors, moi, je suis sur la rue, la 20e rue, Laval-Ouest, et devant moi, ce que je vois, là, mon camion est stationné, ce que je vois, c'est 4 ou 5 coins de rue, et tout au bout, je te dirais à peu près 500 mètres, c'est la rivière, donc c'est la rivière qui se poursuit. Fait que là, on comprend que la rivière a complètement pénétré le quartier ici. C'est scène surréaliste. J'ai croisé un père ce matin qui allait conduire ses enfants à l'école en canot. D'autres, juste à côté de moi, il y a un canot qui vient d'accoster sur la 20, au coin de la 27e, alors c'est un peu comme ça. Bernard, je vous fais entendre Mario Cardinal, lui, qui pensait s'en être tiré, mais qui malheureusement ce matin a constaté quelque chose de pas très réjouissant.
D'accord.
J'ai à peu près un pied d'eau dans le sous-sol, comme c'est là. Ça a monté depuis... ça a commencé hier soir, puis là, j'ai un pied d'eau. Ça fait la deuxième fois en 13 ans.
Merci beaucoup, Stéphane Boucher, donc qui nous parlait depuis Laval. On s'en va maintenant en Mauricie, centre du Québec. Claude Boucher, journaliste Cogeco Nouvelles. Bonjour, Claude.
Bonjour, Bernard.
Comment ça se passe chez vous?
Ben, c'est pas mal stable depuis ce matin. Le nombre de résidences inondées ou encore isolées par le trou des eaux n'a pas beaucoup varié depuis hier. Pour la région de Mauricie, on parle de 266 maisons inondées, 580 isolées. À peu près la totalité se trouve dans la MRC de Masquinongé, soit les municipalités de Louisville, Masquinongé et Yamachiche. À eux seuls, c'est 230 maisons inondées sur les 270. Le reste, c'est du côté de Trois-Rivières et 580 maisons isolées. C'est aussi problématique sur la rive sud du lac Saint-Pierre, dans les municipalités de Nicolet et Bécancour, les mêmes endroits qui avaient été fortement frappés par les inondations de 2017. Mais c'est un peu le jour de la marmotte avec ce qu'on a actuellement en 2019, mais les résidents du secteur qui disent que la situation est un peu, si on peut se permettre de dire comme ça, un peu pire qu'il y a de cela 2 ans. Par contre, ce sont des gens qui sont habitués de vivre avec des crues et des eaux à chaque année.
Oui.
Mais 2017 et 2019, évidemment, ça reste que c'est un peu supérieur comme crue des eaux à ce qu'on a annuellement.
Très bien. Claude, juste avant que vous lanciez l'extrait, parlez-moi de la 40, parce que quand on regarde la 40, on a l'impression que le fleuve a rejoint l'autoroute et puis il ne faudrait pas que ça monte encore de beaucoup parce que la 40 pourrait être submergée.
Oui, mais l'autre problématique également à Louisville qu'on a, c'est que oui, il y a le lac Saint-Pierre qui déborde, mais il y a aussi les cours d'eau qui se jettent dans le lac Saint-Pierre. Et comme le lac ne peut plus rien prendre en provenance de ces cours d'eau, ce sont ces cours d'eau-là qui débordent également avant d'arriver au lac Saint-Pierre. Donc, c'est un peu pour ça, si on ajoute aussi la nappe phréatique qui a tendance à monter, c'est un peu pour ça qu'il y a de l'eau de chaque côté des deux voies de l'autoroute 40. Alors, c'est pas nécessairement le lac qui rejoint l'autoroute, que les autres cours d'eau également qui se jettent dans le lac Saint-Pierre et qui débordent également.
Mais est-ce qu'il y a une inquiétude, Claude, est-ce qu'il y a une inquiétude que la 40, à un moment donné, pourrait être couverte d'eau?
Ben, il y avait eu inquiétude en 2017, mais en 2017, ça avait été quand même assez extrême comme inondation. Et même si l'eau avait quand même monté aux abords de l'autoroute 40, ça n'était pas arrivé.
C'est vrai.
C'est surveillé, je pense, mais c'est pas dans les possibilités, du moins pour l'instant. Bernard, si vous me permettez, si les gens du secteur sont habitués à vivre avec les inondations, et aujourd'hui, c'est le train de vie quotidien qui reprenait. D'ailleurs, j'ai rencontré à Louisville un des résidents qui, lui, ce matin, a pris les grands moyens justement pour aller travailler. Il s'appelle Ghislain Pagé, je vous laisse l'entendre.
Et qui de mieux que des gens du secteur, justement, pour nous dire ce qu'il y a ce matin. Catherine, on est vraiment direct. Il y a un monsieur qui vient d'arriver dans son kayak, ici sur le chemin du lac Saint-Pierre. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît?
Ghislain Pagé.
Monsieur Pagé, vous quittez pour le travail?
Oui, je m'en vais travailler à l'université ce matin, parce que j'ai été appelé hier soir parce qu'il manquait un gars. Mais c'est pire que 2017 parce que ma main avait 4 pieds et demi, puis là, elle a à peu près 5 pieds. Fait que c'est beaucoup plus, là. Moi, j'ai coupé le courant chez ma main, mais chez nous, j'ai pas d'eau, là. Mais c'est juste qu'il faut se promener en kayak.
OK. C'est quand même des inconvénients.
Oui.
Monsieur Paché, merci beaucoup. Bonne journée.
Bienvenue. Bonne journée.
Bon, aller travailler en kayak, c'est quand même quelque chose, Claude.
Voilà.
Oui. Ben écoutez, lâchez pas en espérant que... Parce que le problème là-bas, dans votre coin, c'est la marée. Hein? La marée qui arrive de Québec, qui empêche le lac, dans le fond, le lac Saint-Pierre, de se vider convenablement, là, ce qui permettrait la baisse des niveaux d'eau. Là.
L'autre problématique, c'est que les municipalités de Nicolet et de Yamachiche sont au bout du lac Saint-Pierre. Ça forme comme un entonnoir, ce qui fait que l'eau a quelques difficultés également à s'écouler. Mais pour les marées, là, les résidents du secteur nous disaient qu'aujourd'hui, c'est supposé baisser.
Très bien, Claude Boucher. Merci.
Bonne journée.
Il nous parlait depuis Nicolet. On va aller rejoindre maintenant le météorologue Gilles Brien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Bernard.
Parce que là, je veux que tu nous dises un petit peu, Gilles, ce qui nous attend là, les 24 à 48 prochaines heures.
Oui, la météo devient le facteur pas mal dominant. Hein. Dans les derniers jours, on a vu de tout, de la pluie, de la neige. C'est pas fini. Si les gens de Nicolet là, vont travailler en kayak, il y en a au lac Saint-Jean, c'est en skidoo ou en raquette qui vont travailler. Il y a de la neige. Là, présentement, le Montréal, là, le sud du Québec, on a goûté à quelque chose de très beau là, depuis 2 jours quand même. Là. Des températures de près de 18, beaucoup de soleil. On était en sandwich dans une belle crête d'eau de pression entre 2 systèmes météo. Il y en a un dans l'est là qui donne encore des averses là sur la Beauce. Et si c'est la Beauce qui a eu les inondations les plus dramatiques jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est cette région-là qui a eu 66 mm de pluie là, la semaine passée. Là, tout le monde regarde ben, présentement dans le nouveau système qui s'en vient, qui nous amène 15 à 25 mm supplémentaires à partir de ce soir jusqu'à demain après-midi.
Et là, ça, c'est sur l'ensemble du Québec, y compris la grande région de Montréal?
Pour Montréal, pour tout l'ouest du Québec, l'Outaouais, la Beauce, l'Estrie, là, c'est 15-25 jusqu'aux portes de Québec. À Québec, ça va être un mélange. Hein, on prévoit un peu de grésil. Il y a des risques de verglas dans le parc de Laurentides. C'est pas le temps d'aller d'envoyer sa voiture dans ce coin-là, là, surtout pour les gens qui ont enlevé leur pneu d'hiver. Au nord, déjà, la précipitation a commencé. Rouen, Val-d'Or, 25-35 mm de pluie aujourd'hui. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 10 à 20 cm qui s'en vient. Mais pour Montréal, la bordée de pluie commence ce soir à 7h, 8h, les premières gouttes. Ensuite, ça va s'intensifier cette nuit. On commence à avoir des bons nuages assez épais avec ça. On parle pas d'orage, mais des averses assez intenses. Donc, ça finit demain à mi-journée. On aura eu 25, peut-être 30 mm à certains endroits. Donc, ça va rajouter au risque d'inondation. Là. Parce que présentement, les rivières, les débits, c'est encourageant. Ça diminue hein, en Estrie, en Beauce.
Parce qu'il y a moins de neige à fondre. Là. La neige qu'il y avait à fondre est fondue, n'est-ce pas?
Tout à fait. Je regardais ce matin les derniers relevés satellites de l'épaisseur de neige là sur l'Estrie. Il y en a encore un petit peu dans les secteurs montagneux.
D'accord.
La Beauce, ça diminue, mais c'est vraiment aux portes de Québec, là, du bas du fleuve. Au nord de Montréal, écoutez, vous allez à Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, là, c'est 40-50 cm de neige d'épaisseur, même au nord d'Ottawa. Donc, c'est ça le facteur qui va jouer dans les prochains jours. Là. Vous allez mettre de la pluie là, sur une belle épaisseur de neige.
Ouais.
Ça va fondre. C'est du ruissellement qui correspond à peu près à 15 mm, donc une journée de pluie.
D'accord.
Et il faut comprendre aussi que le bassin de l'Outaouais, c'est un des plus grands hein, au Québec. Là. Les autres dans le sud sont très réactifs. Il pleut puis ça déborde immédiatement. Mais dans l'ouest, c'est plus grand, ça prend plus de temps, il y a plus de neige. Vraiment, le seul facteur favorable qu'on a, Bernard, dans les prochains jours, c'est malheureux de dire, c'est le temps frais, le temps plus froid, là, parce que si on avait des poussées de chaleur à 20-25, la neige fondrait brutalement, puis on aurait des... ça contribue en 2017 sans...
à la montée rapide, oui,
ben
c'est
oui, ça. Il faut bien se consoler, là, on a du temps un peu merdique depuis déjà 3 semaines.
Mm.
Le mois d'avril a été très pluvieux, très froid. Faut trouver des bonnes raisons au mauvais temps. En voilà une. Donc, au moins, ça retarde un petit peu le débit et la montée des eaux.
Bon, ben, écoute. Merci de nous en donner une, Gilles Brien. Météorologue, qu'est-ce que tu veux? Il faut penser. On y va tout de suite. Merci, Gilles Brien. Je disais, on y va tout de suite parce qu'on me glisse à l'oreille qu'on va aller rejoindre le porte-parole de la sécurité publique, Éric Houde, qui est au bout du fil. Bonjour, Éric Houde.
Bonjour, monsieur.
Monsieur Houde, vous venez de l'entendre comme moi, là, 25 à 30 millimètres de pluie ici dans la grande région de Montréal, mais à certains endroits ailleurs au Québec, ça pourrait être encore plus important. Comment vous vous préparez à ça?
Présentement, là, on avait dit que le secteur de Montréal, l'archipel de Montréal, là, le grand secteur le côté ouest,
ouais.
Qu'il allait avoir une légère hausse. On a pogné un plateau, il va y avoir une légère hausse encore. Puis la descente se fera pas de façon automatique non plus. Là. Ce sera pas on a le du jour au lendemain où on perd un pied. Ça fait qu'on risque de rester haut longtemps.
Puis longtemps, monsieur Houde, longtemps, là. Donnez-nous une idée. Là.
Ça, dépendamment de la météo, ça peut être 3, 4, 5 jours, une semaine là, avant qu'on voit descendre là, vraiment. Là. Ça fait que les gens qui ont mis des mesures préventives d'attendre avant de les enlever. Là. Puis s'il y a du monde là, qui pensent que demain matin, ils n'ont pas d'eau nécessairement sur leur terrain, mais c'est de garder ces mesures-là mises en place. L'avance qu'ils ont pris, bien, de le garder. Mais ce ne sera pas... Le monsieur en a parlé tantôt, là, les rivières réactives, les rivières comme qu'on a dans l'Est, bien, c'est un gros bassin versant. Ça fait que c'est long à monter, mais c'est long à descendre aussi en même temps. Là.
Quelle est la différence entre cette année puis 2017?
2017, deux semaines avant, on était en inondation dans votre secteur, dans le secteur de l'archipel de Montréal. Puis quand est arrivé le deuxième système météo, là, les orages à répétition qu'on a eus, ben ça, les gens étaient... Ça faisait déjà 2 semaines qu'ils étaient dans l'eau à vivre des inondations, la fatigue, le manque de ressources matérielles, ressources humaines. Ben, c'est pour ça qu'en 2017, quand juste avant que... Ben 4-5 jours avant qu'il arrive le gros système météo, ben là, ce qu'on a fait, c'est que... On a fait venir l'armée, puis que là, les ministères, puis en même temps, les services incendies ont aidé les autres services incendies. Les municipalités qui n'étaient pas inondées ont aidé les autres municipalités qui étaient inondées. C'est comme deux systèmes à répétition qu'on a eu cette année.
Oui.
L'inondation qu'on a dans l'Ouest, dans votre secteur, est en continu, là, présentement. Là, on est dans... Moi, j'appellerais ça un ascenseur, une progression lente qui va faire qu'on va rester haut quand même. Ça ne baissera pas demain matin. Puis, dépendamment des systèmes météo, vous avez la pluie demain, vendredi, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis, s'il fait froid, mais ça ralentit la fonte. Mais en même temps, il y a de l'eau dans l'ouest, le Bas-Caton, il y a encore de la neige dans les montagnes. Là. Fait que ça va nous maintenir quand même haut plusieurs journées, sinon quelques semaines.
Donc, peut-être moins brutal qu'il y a 2 ans, quelque chose de plus progressif, mais ça ne sera pas juste progressif dans la montée, ça va être progressif dans la descente. Donc, en bout de ligne, c'est peut-être des inondations qui vont durer plus longtemps qu'il y a 2 ans?
Bien différent de la Beauce. Ça va durer à peu près les mêmes durées qu'il y a 2 ans, mais bien différent de la Beauce, là où ça a monté rapidement.
Mm.
Puis là, c'est en train de descendre. On voit déjà du monde, là, ben déjà. C'est quand même mieux que de pas pantoute, là, mais des gens qui réintègrent leur résidence là, dans le secteur de la Beauce.
Là, je veux juste savoir, là, il y a de la pluie demain, ça c'est clair. Il y en a, vous y avez fait référence, vendredi et samedi également. Mettons les 2-3 points chauds là, qu'il faut surveiller en particulier, là, où ça pourrait basculer. Là.
Basculer, on va voir, là, il y a des petits cours d'eau là, du côté nord du fleuve Saint-Laurent, là, de nos secteurs montagneux. Qui sont en train de réagir, là, Haute-Laurentide, Haut-Lanaudière, le gros secteur de la Mauricie par en arrière aussi, la même affaire. Notre secteur de Québec, on voit qu'il y a des rivières qui réagissent. Le lac Saint-Pierre, vous en parliez tantôt, là, normalement, on va pogner la pointe maximale demain. Puis à partir d'après-demain, là, le fleuve a baissé aussi. Fait que normalement, les eaux devraient commencer à baisser tranquillement dans ce secteur-là. Mais on voit, là, nos secteurs du nord, là, on voit là, que Là, c'est eux autres là, qui sont sous surveillance. Là, puis ça, les gens sont aux aguets, les autorités municipales aussi. Puis le niveau de préparation cette année est différent de 2017. Là. Fait que le professionnalisme de nos autorités municipales, les citoyens de la façon dont ils sont préparés, ça fait qu'on est à un autre niveau que de là deux ans.
Monsieur Hood, juste en terminant, là, je reviens là-dessus, mais pour moi, c'est important. C'est quand même un axe extrêmement important pour le Québec. L'autoroute 40, quand on regarde ça, on peut pas faire autrement que de s'inquiéter qu'à un moment donné, l'eau passe par-dessus l'autoroute. Est-ce que c'est un danger réel ou est-ce que je m'inquiète pour rien?
Ben, c'est un risque. Le ministère des Transports est sur place, la Sûreté du Québec. Aussi, n'oublions pas là, que ça dépend tout le temps de la direction des vents aussi. Quand on est rendu à une certaine hauteur, si les vents sont pas du bon côté, puis je vous dirais que tout le monde surveille ça. Mais présentement, là, les spécialistes du ministère des Transports sont à l'affût, sont aux aguets pour protéger l'autoroute 40. C'est quand même un gros axe routier avec beaucoup de volume de véhicules. Puis je vous dirais, dites à vos auditeurs,
oui.
Dites là, de faire attention. On tombe d'un terrain, les routes là, sont minées un petit peu par l'eau à côté. On a perdu une personne. Il faut faire attention, suivre les consignes des autorités municipales et d'être très prudent.
Est-ce que M. Hood, là, quand vous dites la sécurité publique là, est à Louisville pour surveiller la 40 là, dans ce secteur-là, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'à un moment donné, vous pourriez être obligé de mettre une digue de chaque côté de la 40 pour la garder ouverte?
Je vous dirais, là, je vais laisser là, le soin aux spécialistes du ministère des Transports. Là, normalement, ils ont des moyens énormes. Là. C'est eux autres qui vont décider c'est quoi les meilleurs moyens pour être capables de garder ou soit d'aller par alternance.
Très bien. Éric Hood, porte-parole donc pour la sécurité publique. Merci, M. Hood.
Un gros merci. Bonne journée.
Là, on va aller rejoindre Jacques Demers. Jacques Demers, c'est le président de la Fédération québécoise des municipalités. Parce que, cette idée-là évoquée par le premier ministre Legault en fin de semaine de payer pour déménager le monde. C'est-à-dire, à un moment donné, dire ça n'a plus de bon sens, là, vous êtes dans une zone inondable, vous allez être inondé aux deux ans, aux trois ans, on vous donne jusqu'à 200 000, puis là, on vous rachète, dans le fond. Puis vous partez, puis vous allez vous installer ailleurs. On a appris par Tommy Brochu, journaliste à la Tribune, que la Fédération québécoise des municipalités, qui représente les petites et moyennes municipalités, avait envisagé ce scénario, donc de déplacer des propriétaires riverains. Bonjour, Monsieur le Président. Demers, oui. Ça va bien?
Bonjour, M. Dreville. Oui, très bien.
Donc, pour vous, c'est un scénario réaliste qu'il faut envisager là dorénavant, c'est-à-dire d'approcher des propriétaires et leur offrir un montant d'argent pour qu'ils plient bagages et puis qu'ils acceptent que leur résidence soit détruite. Ou déménagée. On la met sur sur un camion, là, un gros camion, puis on transporte la résidence. Là.
Exactement. Il y a différents scénarios. Ce qu'on trouve intéressant dans celui-là, on dit on se crée un nouvel outil qu'on n'avait pas précédemment avec une certaine somme. Est-ce qu'on est d'accord avec le montant? Tout ça pourra peut-être être regardé, mais ce qu'on veut, c'est éviter de faire du mur à mur. Il y a des endroits que je pense que oui, ça peut convenir et qu'il y a des propriétaires probablement aussi que ça ferait leur affaire parce que certains diront ben la valeur des maisons est beaucoup plus élevée, mais il y a des valeurs de maisons qui diminuent beaucoup dans les dernières années. C'est quand tu es inondé à chaque année ou aux deux ans, c'est difficile aussi de trouver un nouveau propriétaire. C'est pas le genre de choses que tu peux cacher là, d'une maison. Alors donc, ça a un impact. On dit ben oui, cet outil-là, mais on a beaucoup d'autres choses aussi à faire. Je pense que le monde municipal de ce temps-là est en train de s'ajuster. La récurrence de ce côté-là est de plus en plus près. On a maintenant des outils, qu'on parle du LIDAR ou différents outils, qui sont capables de nous donner de façon très précise ce qu'on est capable de modéliser les crues d'eau et les impacts à quel endroit. Ce qu'il faut éviter du mur à mur, c'est que l'endroit où ça peut monter, une fois au 100 ans, puis le maximum est de 2 cm, qu'il n'y a aucun impact sur sécurité publique ou des coûts extérieurs.
Ah, mais M. Demers, on parle pas de ça, là. Là, je suis sûr, je ferai un sondage avec les gens qui nous écoutent. C'est pas de ça dont on parle. Là, on parle vraiment, là, de municipalités qui sont inondées à répétition depuis un certain temps, puis on sait que les intervalles vont se rapprocher. Puis là, ce que vous me dites, vous, c'est qu'à titre de porte-parole, là, quand même, des petites et moyennes municipalités, vous êtes vous-même maire de Sainte-Catherine, hein, de Hatley, dans l'Estrie. Bon, vous me dites, je peux vivre avec ce scénario-là. Je vais être capable, à un moment donné, de m'asseoir avec des résidents de mon coin discuter avec eux, puis être capable, dans certains cas, de les convaincre, de dire, regarde, prends le chèque du gouvernement, puis va-t'en, parce que tu vas vivre l'enfer, de toute façon, dans les prochaines années.
Je pense que c'est possible. Puis ce que je vous dis, c'est que quand on parle de zone inondable, là, même si c'est inondé de 2 cm dans l'espace de 20 ans de façon récurrente, là, c'est de ça qu'on parle aussi. Ces endroits-là n'ont pas le droit de construction présentement. Puis les endroits qui sont déjà construits, c'est de ceux-là qu'on parle. Ça fait que oui, c'est une différence, mais on parle d'une zone inondable. C'est pas à partir d'un centimètre ou rendu à 15 mètres d'eau, là. C'est tous des zones inondables. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la réglementation, là.
OK. Fait que là, vous êtes en train de me dire, dans le fond, c'est pas juste les grosses zones, là. C'est aussi celle où il y a une constance, ça ne veut pas dire des grosses inondations, mais des inondations fréquentes qui risquent d'empirer avec les années qui viennent, hein, avec le réchauffement et tout le reste. Donc, vous dites, dans le fond, il va peut-être falloir aussi faire de la prévention dans certains cas, voir venir les zones à risque et peut-être procéder à des rachats.
Ou de la prévention, c'est-à-dire tantôt vous parliez de digues ou de choses, il y a des endroits qu'on sait qu'on pourrait protéger des grands territoires, des fois avec des digues de moins de 6 ou 8 pouces de haut, parce que c'est à partir de là que l'eau descend.
Mais ça veut-tu dire des digues permanentes? Parce qu'on sait absolument. Que dans certaines villes européennes, ils ont décidé d'installer des digues permanentes à l'année longue. Là. Ils sont toujours là, là, par prévention, justement.
Exactement. On le voit dans le cas de Northackley, qui ont fait l'étude chez eux, entre autres. Il y a des exemples très concrets qui savent que à partir de digues qui, pour certains, seront minimes. Là, si on parle de 6-8 pouces, tout le monde dit qu'il n'y a aucun risque. Mettons qu'on la mettrait à 12 ou à 16. Allons-y plus préventif. On sait que ça frappe de façon plus récurrente, mais on est capable de protéger des endroits. Puis on est capable de voir que ce volume d'eau-là, s'il va pas à cet endroit-là, doit aller ailleurs.
Okay.
Quels sont les impacts? Il faut que ce soit analysé au complet, ces situations-là, pour qu'on puisse vraiment avancer puis prendre des décisions locales. C'est pour ça qu'on dit le rachat, là, pour nous, c'est pas une première éventualité. Mais c'est un outil, dans certains cas très précis, qu'on devrait quand même être capable d'apprécier puis voir de quelle façon qu'on peut l'appliquer.
Les gens qui vous écoutent vont dire, ouais, on sait bien, les maires, eux autres, ils veulent pas mettre le déménagement comme première option parce qu'ils sont responsables, les municipalités sont responsables d'avoir permis ces gens-là de construire, d'avoir permis à ces gens-là de se construire et ils récoltent les taxes qui viennent avec.
Ben, je pense que les taxes, c'est un revenu collectif. Puis la municipalité qui présentement, là, qu'on peut en nommer plusieurs, là, qui sont en train, année après année, avoir des frais autour de ça, là, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé le volume de taxes qu'ils peuvent retirer de ces endroits-là. Je pense qu'on pense d'abord aux citoyens. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des solutions pour régler ces cas-là. Je pense pas qu'il y a personne qui veut garder des gens sous l'eau pour aller chercher de la taxe. Là, on est loin de là.
Donc, je note en terminant, là, le déménagement pour vous, c'est pas la première option. Vous aimeriez mieux protéger ces secteurs-là, par exemple, par des digues avant de procéder à des déménagements. J'ai bien compris?
Ben, ce que je dis, certains cas, ça sera peut-être la première option. C'est du cas par cas. À des endroits, oui, c'est peut-être la solution, mais à d'autres endroits, évidemment pas.
Très bien. Jacques Demers, président Merci. De la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine de Hatley. Merci.
Merci beaucoup.
On va s'arrêter. Ça fait le tour. Je vous le dis d'avance. Par contre, on va aller au point de presse de Madame la ministre de la Sécurité publique. Ça va être dans la troisième heure, autour de 14h15. On aura à ce moment-là les toutes dernières informations. Après la pause, on change de sujet. On s'en va dans le secteur de la santé parce que les nouvelles sont bonnes. Les cliniques privées pour des chirurgies d'un jour, des chirurgies mineures, livrent bien. Vous devez être opéré, vous l'êtes. Et là, j'ai hâte d'entendre le représentant des syndiqués de la santé, CSN, parce que là, tu dis, c'est tout beau, c'est tout positif. J'imagine que le porte-parole du syndicat va nous dire « Bravo, on est content! » On a hâte d'entendre ça après la pause.